Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. À en croire les diplomates chinois, les relations avec la Russie sont solides comme un roc et l'amitié entre Xi Jinping et Vladimir Poutine sans limite. Les sanctions occidentales font de ces déclarations un véritable test. La Russie a besoin d'une planche de salut tant économique que financière. Moscou aimerait pouvoir faire de Pékin un conduit à travers lequel continuer de faire commerce avec le reste du monde. La Chine, de son côté, fait face à un équilibre délicat à trouver entre aider Vladimir Poutine à rester debout face à leur rival commun, les États-Unis, tout en conservant son propre accès au système financier global. Bien que la Chine se soit abstenue lors du vote aux Nations Unies condamnant la Russie pour son invasion de l'Ukraine, son soutien rhétorique est plus complet. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi qualifiait début mars la Russie de partenaire stratégique de la Chine le plus important. Les difficultés n'en sont pas moins réelles pour la Chine, qui sait bien qu'elle aussi peut être touchée par des sanctions secondaires, comme elle le fut à propos de l'Iran et de la Corée du Nord par l'Amérique. La Chine joue les équilibristes neutres mais pro-Russie, la guerre en Ukraine, un motif de distanciation entre Pékin et Moscou ou la confirmation des fortes convergences entre les deux pays. C'est ce que nous allons voir avec nos invités et avec moi en studio. Marie Mindras, politologue au CNRS et au CERI, professeure à Sciences Po à l'École de Relations Internationales et membre de la revue Esprit dont le numéro d'avril est consacré à la guerre en Ukraine sous le titre « Ukrainiens et Russes, le temps de la guerre ». Bonjour.
Bonjour.
Alice Ekman, analyste responsable de l'Asie à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne et auteur de Rouge vif, l'idéal communiste chinois paru aux éditions Flammarion. Bonjour.
Bonjour.
Et Pierre Grosser, spécialiste de la géopolitique asiatique et auteur de Pourquoi la Deuxième Guerre mondiale paru chez Archipoche. Bonjour.
Bonjour.
Pierre Grosser, dont je précise qu'il est avec nous par téléphone depuis Saïgon. Les relations entre la Russie et la Chine n'ont pas toujours été un fleuve tranquille. Depuis la naissance de la République populaire de Chine en 1949, il y a eu beaucoup de hauts et de bas, 30 ans de brouille entre 1960 et 1990, avec toutefois des embellis et des rapprochements selon les circonstances. 2001, traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Il ne s'agit là alors pas d'une coalition anti-occidentale comme c'est le cas aujourd'hui. Le vrai rapprochement entre les deux pays se fait avec l'arrivée de Poutine en 2012, qui coïncide avec l'arrivée de Xi Jinping. À partir de 2014, annexion de la Crimée, la Russie, punie par l'Occident, pivote vers l'Asie, mais garde de bonnes relations avec l'Inde, le Vietnam, voire le Japon, à qui elle fait miroiter un traité de paix sur les îles Kouriles. Que dire de la relation aujourd'hui, 6 semaines après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, de la relation entre Pékin et Moscou? Est-ce que, Pierre Grosser, la position de la Chine a évolué depuis le début de l'agression russe de l'Ukraine? Est-ce qu'il y a distanciation ou au contraire le bloc sino-russe est toujours aussi fort?
Alors c'est toujours un peu compliqué à analyser parce que déjà on ne sait pas tellement quel était l'état de la relation au départ. Notamment avec ce voyage très médiatisé de Vladimir Poutine à Pékin au moment des Jeux Olympiques, puisque d'un côté on avait l'impression d'un traitement de faveur, puisque Xi Jinping n'avait rencontré aucun chef d'État depuis pratiquement 2 ans, et en même temps on a eu l'impression de voir Poutine isolé dans les tribunes, un peu renfrogné, et en fait on ne sait pas s'il y a eu à ce moment-là un feu vert de la part des Chinois aux Russes pour leur action et leur invasion de l'Ukraine. C'est probable, mais c'est pas sûr, en lui disant d'attendre la fin des Jeux Olympiques et pas recommencer ce qui s'était passé au moment des Jeux Olympiques de Pékin avec la guerre en Géorgie. Donc on ne sait pas exactement quel point de départ, si c'était vraiment une lune de miel tout à fait considérable ou c'était justement pour montrer à l'Occident qu'il y avait des liens très forts entre les deux juste avant cette agression russe en Ukraine.
Alice Ekman.
Oui, la relation entre la Chine et la Russie est beaucoup plus qu'un mariage de raison, de mon point de vue. Depuis 2014, l'annexion de la Crimée, on note un rapprochement qui n'est pas que pragmatique. À l'époque, il était souvent analysé que la Russie s'était tournée vers l'Est, pas uniquement vers la Chine, comme vous l'avez indiqué, pour trouver des débouchés pour ses hydrocarbures face aux sanctions occidentales, et puis tout simplement pour continuer à maintenir un niveau d'échange économique au sens large. Et il était analysé que ces relations, ce rapprochement Chine-Russie, Russie n'était que pragmatique et temporaire. Il n'allait pas finalement se prolonger dans le temps. Aujourd'hui, on est à cette distance pour dire que non seulement le rapprochement a été énergétique, économique, mais aussi militaire, il faut le dire, avec des exercices militaires conjoints qui ont été conduits en mer Méditerranée, en mer Baltique, en mer de Chine du Sud, en Asie centrale, en Sibérie. Alors souvent, on indique qu'il s'agit de petits exercices conjoints, tout de même, leur répétition et leur fréquence est un signe de rapprochement. Les deux pays commencent à développer des équipements militaires conjointement, comme par exemple un système d'alerte antimissile ensemble. Et surtout, les deux pays préparent et collaborent davantage pour aligner leurs positions dans les institutions multilatérales. Et on note réellement une convergence conceptuelle et, j'ose le dire, idéologique entre les deux pays. Alors certains ne seront pas d'accord avec cette analyse, mais tout de même, le ressentiment très fort envers l'OTAN est partagé. Et on le note dernièrement avec Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères chinois, qui considère que l'Indo-Pacifique est une nouvelle forme d'OTAN en Asie. Mais le mot OTAN dans la bouche des dirigeants chinois aujourd'hui a une connotation relativement péjorative pour plusieurs raisons. On peut rappeler le bombardement dans l'ambassade de Chine à Belgrade en 1999, mais aussi on peut rappeler plus récemment la mise à l'agenda de la Chine, agenda de l'OTAN, de la menace chinoise au sens large, qui suscite une insatisfaction à Pékin. Et puis plus généralement, une vision post-occidentale du monde, avec une volonté très forte depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, comme vous l'avez dit, conjointement aussi avec Xi Jinping, de défendre des intérêts chinois qui finalement, à terme, marginaliserait l'Occident au sein des institutions multilatérales. Ça paraît un petit peu simpliste, mais réellement, il y a une vision partagée du monde, de la gouvernance mondiale, et il y a aussi une convergence sur la communication, sur le déclin de l'Occident, sur le fait qu'il y aurait des tensions entre alliés. La Chine a été vraiment rapide pour pointer du doigt la position de l'Inde récemment face à la guerre en Ukraine, etc. Sur le plan du discours, on note aussi un rapprochement, puisque la Chine refuse d'utiliser le terme de guerre ou d'invasion. Et de mon point de vue, on ne note aucune distanciation de la Chine vis-à-vis de la Russie depuis le début de la guerre. Parce qu'il faut quand même bien souligner, et je terminerai là-dessus, c'est que la rencontre de Xi Jinping et Vladimir Poutine à Pékin le 4 février a mené à la signature d'un communiqué conjoint extrêmement complet et extrêmement fort lorsqu'on relève certains termes. Par exemple, ils assurent un soutien mutuel dans la défense d'intérêts de sécurité dans leur environnement géographique. Alors, il n'est pas mentionné explicitement l'Ukraine, en effet, dans le document, mais il est mentionné Taïwan, avec la Russie qui réaffirme le discours officiel chinois sur Taïwan.
Alors, pour aller plus loin, Marie Mindras, côté russe, est-ce que on a parlé de collaboration entre Pékin et Moscou, de rapprochement entre la Chine et la Russie, est-ce qu'on peut parler d'alliance ?
Non, absolument pas, à mon avis, et je crois que c'est important, justement, de replacer la question dans cette guerre en Ukraine, qui quand même accompagne un renversement des positions de force et de la sécurité, non seulement sur le continent européen, mais probablement toutes les données géopolitiques du monde entier. Donc d'abord, je voudrais rappeler qu'on parle d'une relation entre deux dictatures qui jouent beaucoup de la désinformation, du mensonge et des récits fabriqués. Donc, citer les déclarations des uns ou des autres, ou même de leur traité de partenariat, avec toutes les précautions d'usage. Il n'y a aucune raison de penser que ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères chinois est sincère ou programmatique et annonce une politique. La deuxième chose est que dans cette relation, depuis le début, la Russie de Poutine est le junior partner. Et les Chinois, moi, de l'expérience que j'ai eue de la position chinoise à la fois dans des rencontres et conférences à Moscou, quand je pouvais encore aller à Moscou, ou de conférences que j'ai données à Pékin au printemps 2019, quand j'étais chercheur invité à Hong Kong, j'ai toujours ressenti un certain mépris des Chinois, et aussi dans certains de leurs écrits, notamment cet institut de recherche à Shanghai, vis-à-vis de la Russie. Voilà. Donc déjà, je pense qu'il y a une asymétrie qu'il faut rappeler. Enfin, pour comprendre la position de la Chine, J'imagine bien qu'il faut la replacer dans le contexte régional que qu'Alice et Pierre connaissent bien, la relation difficile avec l'Inde, où on voit aussi cette concurrence sur les armements et la concurrence aussi pour les hydrocarbures russes. Il y a bien sûr le Japon, qui est voisin de la Russie et tout proche de la Chine, et les deux Corées. Enfin, je voudrais rappeler également que pour la Chine et la Russie, l'un et l'autre restent un partenaire commercial secondaire. L'Union européenne reste le partenaire principal, en tout cas le premier partenaire, certainement pour la Russie, avant cette terrible guerre. C'est-à-dire que Poutine, il est en train de casser tout ce qu'il a construit avec l'Union européenne, avec les États-Unis, depuis des années. Enfin, sur la position de la Chine, je reste plus prudente sur l'analyse des votes au Conseil de sécurité ou à l'Assemblée générale, ou sur la grande problématique anti-américaine, qui certes donne aux deux dictatures une doxa. Les dictateurs ont besoin de doxa plus que d'explications. Et au moment de l'annexion de la Crimée et de la première invasion de l'Ukraine au printemps 2014, la Chine, comme beaucoup d'autres pays, se sont abstenus. Et en 2022, nous avons ce même vote, mais qui est bien pire pour la Russie, le 2 mars dernier, où il y a seulement 4 États qui votent pour la Russie contre l'Ukraine. Enfin, il faut les rappeler, c'est la Biélorussie, l'Érythrée, la Corée du Nord et la Syrie. Et ensuite, nous avons 35 États comme la Chine et l'Inde et une vingtaine d'États africains qui décident de s'abstenir. Mais c'est surtout un non poli, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas prendre une position qui les met en porte-à-faux vis-à-vis soit de Moscou, soit de Pékin. Voilà, donc la position de la Chine aujourd'hui, je pense qu'elle peut évoluer. Il me paraît évident, et d'ailleurs les officiels chinois le disent, de ce que je peux lire en traduction, le disent, c'est-à-dire qu'ils ne cessent de répéter qu'ils sont absolument contre les interventions extérieures et que l'intégrité territoriale et la souveraineté d'un État doivent passer avant tout. Donc je ne pense pas que le pouvoir communiste puisse tant se réjouir que Vladimir Poutine crée la perturbation.
Alors précisément, Pierre Grosser, est-ce que, on sait que la Chine aurait pu se poser en véritable acteur sur le dossier ukrainien, acteur responsable, elle aurait pu modérer Poutine. Deux questions en une, est-ce qu'elle a manqué la Chine une occasion ou l'a-t-elle fait pour ne pas risquer de servir les intérêts des États-Unis et que sait-on à ce jour du soutien qu'apporte la Chine à la Russie?
Alors, la dernière partie de la question, c'est-à-dire sur le soutien, je crois qu'il y a une ligne rouge du côté américain, et ils l'ont répété à plusieurs reprises, qui est sur l'aide militaire. Si on voit qu'il y a de l'aide militaire chinoise à la Russie en difficulté, à ce moment-là, ça serait une ligne rouge qui serait franchie. Quelle serait exactement la réaction américaine, notamment avec l'extension des sanctions, auxquelles d'une certaine façon, la Chine est plus vulnérable, notamment parce qu'elle a plus de réserves de dollars que l'avait la Russie. Ça reste à voir. Alors après, sur la possibilité pour la Chine de se présenter en acteur responsable, ce qu'elle a fait depuis un moment, défenseur de la charte, parce qu'en gros, une partie de l'argumentaire chinois et russe pendant depuis une vingtaine d'années, c'est de dire que eux respectent la charte des Nations Unies depuis 1945 et que ce sont les Occidentaux qui violent cette charte, notamment avec leurs interventions dites humanitaires, leurs ingérences, etc., etc. Alors que le principe de base de la charte des Nations Unies, c'est la souveraineté des États. Et donc là, la Chine se présente d'habitude comme la défenseuse de ces institutions internationales, de la charte de l'ONU. Et là, effectivement, elle a une position qui est compliquée. D'ailleurs, son abstention lors du vote aux Nations Unies est un peu trafiquée parce qu'en fait, on a changé le texte de la résolution pour l'amoindrir, pour diminuer la condamnation de la Russie et pour obtenir que la Chine ne se rallie pas à la Russie. Donc, il faut bien voir que cette idée qu'elle est l'acteur le plus responsable, défenseur de la souveraineté, ce qui, auprès de beaucoup de pays du tiers-monde, est particulièrement important. Ça vole en partie en éclats à cause de ce qui s'est passé avec l'Ukraine. Et c'est un argument qui n'est pas possible de comparer avec celui de Taïwan, puisque eux considèrent que Taïwan n'est pas un État. Donc, s'ils attaquaient Taïwan, ça ne serait pas une violation de souveraineté d'un État, alors que là, très clairement, l'Ukraine est un État membre de la communauté des États, membre fondateur d'ailleurs des Nations Unies, puisque l'Union soviétique avait trois sièges aux Nations Unies. Donc je pense qu'elle est un peu en difficulté, mais qu'on peut pas en attendre grand-chose, et qu'elle n'avait pas au départ, en tout cas, l'intention, aujourd'hui je pense qu'elle l'a pas encore cette intention, mais qu'elle n'avait pas l'intention au départ d'agir en quoi que ce soit, et peut-être espérait-elle, hein, c'est, encore une fois, je crois que c'est très difficile de savoir, on a eu du mal à savoir ce que pensait Poutine, je pense que de savoir ce que pense Xi Jinping, c'est pas très facile, mais que ce soit une opération assez rondement menée, Alice le dira bien mieux que moi, il y a quand même un agenda politique de Xi Jinping à l'automne qui fait qu'on veut que les choses se passent relativement rapidement et qu'il n'y ait pas de grandes tensions internationales auparavant. Et je pense qu'ils espéraient que l'affaire soit réellement menée. C'est peut-être ce que Poutine leur a promis à Pékin.
Alors, en tout cas, ce qu'on a lu et ce que disent les Américains, c'est qu'une aide militaire a été demandée par Moscou à la Chine. On sent bien, Alice Ekman, peut-être les Américains cherchaient à contraindre la Chine à se positionner. Et finalement, il y en a 2 minutes avant la fin de cette première partie d'émission, on poursuivra dans la deuxième. Quel intérêt la Chine aurait à se mêler davantage à ce conflit?
Oui, vous avez raison. La pression américaine est très forte sur Pékin pour un positionnement, mais la pression européenne aussi, de l'Union européenne, puisqu'un sommet UE-Chine s'est tenu le 1er avril, avec des divergences très fortes sur l'agenda même, sur l'ordre du jour de cette rencontre, puisque l'Union européenne souhaitait mettre l'Ukraine à l'ordre du jour et la Chine ne le souhaitait pas. Donc on voit bien aujourd'hui de plus en plus que la Chine essaye de continuer finalement les relations bilatérales, multilatérales, comme si presque de rien n'était, et cela même constitue un point de divergence et voire de conflit majeur avec ses partenaires, dont l'Union européenne et bien sûr son rival systémique aujourd'hui, que sont les États-Unis. Face à cela, c'est intéressant quand même de noter que la Chine vraiment élude, hein, c'est-à-dire qu'elle ne se positionne pas, elle n'apporte pas de garantie, que ce soit à Bruxelles ou à Washington, sur le fait qu'elle ne soutiendra pas son partenaire russe. Au contraire, depuis le début de la guerre, la Chine s'est positionnée très clairement contre les sanctions économiques, en premier lieu. Il y a bien sûr la question d'une aide militaire potentielle pour laquelle nous n'avons pas aujourd'hui d'informations nouvelles par rapport à ce que vous avez annoncé. Mais très clairement, au niveau officiel, la Chine considère qu'il faut continuer à commercer normalement avec la Russie, et notamment dans le domaine énergétique. Alors bien sûr, il faudra voir la mise en application concrète et la déclinaison au niveau des entreprises chinoises, mais c'est intéressant de noter cela parce qu'il y a plusieurs éléments qui indiquent que la Chine ne se distance pas de la Russie. Tout d'abord, donc, ce positionnement en faveur de la poursuite du commerce. Deuxièmement, une convergence au niveau de la propagande et de la communication, puisque la Chine a repris certains éléments du discours russe, certaines théories qu'on pourrait qualifier de complotistes sur la présence d'armes biochimiques américaines en Ukraine, ou par exemple sur le fait que le massacre de Boutcha serait une mise en scène. Donc on a quand même aujourd'hui des convergences en termes de communication. Sur l'abstention et la position aux Nations Unies, Pierre Grosser l'a très bien indiqué, il y a quand même une reformulation des termes qui indique quand même que l'abstention chinoise n'est pas une distanciation par rapport à la Russie. Et surtout, le rapprochement Chine-Russie est un rapprochement entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, qui se sont rencontrés plus de 35 fois depuis 2013. Et il faut bien considérer qu'une remise en cause de ce rapprochement, ce serait aussi une remise en cause de la politique étrangère de Xi Jinping.
Oui,
et
oui.
Il faut prendre en compte réellement le discours chinois. Ce n'est pas des mots dans le vent. Les mots ont un sens, y compris dans les dictatures. Et quand la Chine dit que la Russie aujourd'hui est son partenaire stratégique le plus important, c'est très important à prendre en compte.
Je sais que Marie Mandras voulait vous répondre. Je vous propose de répondre, Marie Mandras, au tout début de la deuxième partie d'émission. On vous retrouve avec Alice Ekman, Pierre Grosser, qui est avec nous par téléphone depuis Saïgon, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Regard sur la relation entre la Chine et la Russie. Nous retrouvons nos invités en studio. Marie Mandras, politologue au CNRS et au CERI, professeur à Sciences Po, à l'École de Relations Internationales, et membre de la revue Esprit, dont le numéro d'avril est consacré à la guerre en Ukraine, sous le titre « Ukrainiens et Russes, le temps de la guerre ». Alice Ekman, analyste responsable à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne et auteur de « Rouge vif, l'idéal communiste chinois » aux éditions Flammarion, et avec nous par téléphone depuis Saïgon, Pierre Grosser, spécialiste de la géopolitique asiatique et auteur de « Pourquoi la Deuxième Guerre mondiale » chez Archipoche. On a terminé la première partie de l'émission, Marie Mandras, sur la question de savoir si l'intérêt qu'aurait la Chine à se mêler davantage au conflit en Ukraine. On a bien noté que l'évolution de la guerre pouvait, et vous le disiez dans la première partie, faire peut-être modifier, alors à la marge ou fondamentalement, je ne sais pas, le soutien de la Chine à la Russie.
Oui, je crois que nous sommes face à une guerre épouvantable. Nous avons vécu là depuis une quinzaine de jours devant des images et des vidéos d'exactions qui sont quasiment insoutenables, et d'autant plus insoutenables est le déni et les fabrications de fausses vidéos par les autorités russes. Et si elles sont reprises aussi par les télés chinoises ou d'autres pays, je crois que ça en dit long sur la nature et la terrible dérive de ces dictatures vers le mensonge, la violence et la maltraitance de leur propre population. Les Russes, de plus en plus, subissent la guerre. Et en plus, elle est faite en leur nom. Et pour eux, c'est vraiment absolument détestable. Alors, sur la position de Xi Jinping, donc c'est pas la Chine, c'est un clan dirigeant aussi. Hein, c'est une dictature, donc c'est un clan dirigeant très riche, militarisé, qui peut absolument imposer tout ce qu'il veut. Il me semble que quand même vers la mi-mars, les autorités chinoises ont refusé poliment de fournir l'armée russe, mais en tout cas, il n'y a pas eu de réponse positive. Les autorités russes ont également fait des demandes auprès de l'Inde, parce que au bout de cette semaine
militaire.
Mais oui, ils ont besoin non seulement d'armement, mais de pièces détachées, qu'ils n'obtiennent plus de pays qui, d'ordinaire, leur fournissaient tout cela. Donc, il faudrait... pour moi, ce fait est plus important que toutes les déclarations propagandistes. Donc, je ne pense pas que nous allons voir les Chinois ou les Indiens aider de manière concrète, pratique, avec des armes de destruction, la folle guerre du Kremlin. Enfin, Alice Ekman en a parlé, les échanges de Xi Jinping avec Emmanuel Macron, avec le chancelier allemand et les autres dirigeants européens, tout ça s'est passé en visio, je crois, montrait bien une certaine prudence du président chinois. Pour le président chinois, comme pour nous tous, il faut maintenant que nous anticipions une relation avec un État russe qui est parti dans de la violence totale et qui remet en question tous les équilibres de sécurité en Europe, que cet homme va être poursuivi pour crime de guerre, et peut-être plus. Qu'il soit attrapé ou non est une autre question. Mais les dossiers sont déjà à la haie, les enquêtes se font avec grande diligence en Ukraine. J'imagine que les dirigeants chinois sont tout aussi informés que nous sur cela. Comment est-ce que, dans quelques mois, les grands pays de la planète pourront reprendre une relation avec la dictature russe comme s'il ne s'était rien passé, si ce régime est toujours en place dans quelques mois?
Et avec cette interrogation, tout de même, Marie Mandras, mais c'est à mettre en débat entre vous, ces menaces de poursuite pour crimes de guerre, elles ont un pendant, c'est celui du risque de l'escalade militaire de la part de Vladimir Poutine, et peut-être comme une stratégie probable du Kremlin. Pierre Grosser, je ne sais pas si vous souhaitez répondre là-dessus.
Je voulais juste dire un mot sur la question de Poutine, criminel de guerre, et si ça pouvait choquer les Chinois. Je pense que ça leur pose strictement aucun problème. La Cour pénale internationale, c'est pas leur affaire, ils l'ont jamais aimé. Ils estiment, et c'est dans leur propagande, et je pense qu'ils en sont assez persuadés, que les États-Unis ont fait pire, ou en tout cas ont fait à peu près la même chose, et que de toute façon, une partie de ces violences, et en tout cas une partie de cette guerre, c'est de la responsabilité des États-Unis. Alors on peut dire que c'est de la propagande, qu'ils sont montés le bourrichon là-dessus, mais je crois qu'ils en sont en partie persuadés, que ça sera en fonction de leur intérêt et pas de leur jugement sur les meurtres ou les horreurs qui ont été commises par Poutine qui dictera leur conduite, la conduite du gouvernement chinois, me semble-t-il. Je voulais juste faire cette petite remarque.
Une petite réplique à ce que vient de dire Pierre, une petite réplique. J'entends bien ce que vous dites, Pierre, mais le problème est que si Poutine est toujours au pouvoir dans quelques mois, après avoir détruit l'Ukraine, on ne sait pas quels seront ensuite les termes d'une partition de l'Ukraine. Le fait qu'il soit complètement paria pour plus de la moitié des pays du monde et notamment de toutes les démocraties occidentales va nécessairement l'affaiblir. Donc c'est ce que je veux dire. C'est que pour la Chine, qui est une grande puissance mondiale et une grande puissance en Asie, qui a une longue frontière avec la Fédération de Russie, la façon dont ils vont traiter un homme qui serait toujours à la tête de la Russie, mais qui serait très affaibli. Regardez, même la force énergétique qu'avait la Russie va être perdue. Son armée est en déroute, même s'il continue à détruire, mais il n'arrive pas vraiment à conquérir. Donc, c'est cela la question que je pose. Je comprends bien l'immense cynique des dirigeants communistes à Pékin, mais le monde aura complètement changé dans quelques mois, et donc la relation à la dictature poutinienne également.
Alors, cette question de faiblesse de Vladimir Poutine, elle est intéressante, Alice Ekman. On sait bien que la Chine n'a pas très envie d'une Russie faible.
Non, et puis Xi Jinping ne veut pas voir tomber Vladimir Poutine. Ce n'est en aucun cas dans son intérêt. Donc aujourd'hui, on parle de soutien économique, on évoque la question militaire, mais à terme, il y a tout simplement, et déjà dès à présent, un soutien politique dans la communication, dans la diplomatie, dans le fait aussi que la Chine va continuer sa coopération énergétique avec la Russie. Il faut être assez clair sur la divergence de perception. Et ce n'est pas qu'une histoire de propagande. Ça, je le souligne. On peut dire, oui, les dirigeants chinois disent ça, mais ça n'a pas de valeur. Si, ça a beaucoup de valeur. Les dirigeants chinois ne disent pas que le contraire de ce qu'ils pensent. Quand la Chine, aujourd'hui, répète à longueur de journée que les États-Unis sont responsables de la situation en Ukraine, il faut les prendre au mot. Parce que c'est ce qu'ils, aujourd'hui, considèrent vraiment. Bien sûr, nous, c'est notre perception totalement différente et les faits sont éloignés des perceptions chinoises. Mais il faut prendre cela au mot parce que pour Xi Jinping, tout à l'heure vous parliez de médiation. Xi Jinping a tenté un positionnement de médiateur, mais pour lui, les parties prenantes, c'est-à-dire les États-Unis et l'OTAN, devaient être autour de la table des négociations pour à terme accorder des concessions à la Russie. Vous voyez bien, dans le discours chinois et dans aussi les actions diplomatiques chinoises, ce sont aux États-Unis et à l'OTAN d'accorder des concessions. Ça, c'est à prendre en compte de manière très importante. Par ailleurs, la Chine, encore une fois, accuse les États-Unis et l'OTAN d'être responsables en faisant référence aux soi-disant quatre vagues d'extension de l'OTAN vers l'Est. Encore une fois, tout cela est sujet à débat et à comparer à la réalité des faits. Mais les faits ne sont pas un problème pour la Chine comme pour la Russie, vous le savez bien. Il y a une réécriture de l'histoire qui est constante. Après, le positionnement ou la vision de la Russie comme paria, la Chine, aujourd'hui au niveau diplomatique, fait tout pour que la Russie reste présente dans les enceintes multilatérales et les forums à venir. Pour vous donner un exemple très concret, le G20 qui doit se tenir en novembre en Indonésie, la Chine considère que la Russie doit y participer. On ne sait pas si ça va se réaliser, mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a des divergences de vues sur le statut même de la Russie de Vladimir Poutine et que la Chine est aujourd'hui un soutien diplomatique de la Russie de Vladimir Poutine. Alors qu'on le pense que ça, c'est bien ou pas bien, ce n'est pas la question. Aujourd'hui, en termes d'analyse, la position de la Chine est celle que l'on décrit actuellement. Sur le déséquilibre de la relation, en effet, il y a un déséquilibre économique majeur. La Chine, deuxième puissance économique mondiale, la Russie, onzième puissance économique mondiale, bien sûr. Mais il y a aussi des convergences et une certaine complémentarité de la relation. On a parlé de coopération énergétique, il y a aussi la coopération militaire, même si on voit aujourd'hui les limites de la puissance militaire russe. Il y a aussi une coopération technologique. Et puis la Chine qui considère qu'il y a aussi des opportunités à saisir en termes de renégociation de certains contrats gaziers, en termes de promotion des technologies chinoises en Russie, et puis aussi en termes de promotion de normes technologiques alternatives dans le monde. On a beaucoup parlé de la 5G, on peut aussi parler d'un certain nombre de technologies, satellites, câbles sous-marins, développement spatial, etc.
Alors, deux choses pour poursuivre. Merci Elie Seckmann. Avec l'invasion de l'Ukraine, se fait jour une autre image de la démocratie ou des démocraties. Pas si faible que ça, pas si paralysée. Les peuples envahis se lèvent pour résister. Je vous poserai la question, Marie Mandras, de savoir si l'hypothèse d'une mobilisation générale en Russie qui est évoquée, est-ce qu'elle est plausible. Mais sur la question de la démocratie pas si faible que ça, Pierre Grosser, c'est évidemment un message qui parvient jusqu'à Pékin.
Je serais hélas un tout petit peu moins optimiste que vous. Le sommet des démocraties de Biden n'a pas été un succès
avant la guerre en
considérable.
Ukraine.
Et d'ailleurs, avant la crainte de décembre 2021. D'ailleurs, au même moment, les latino-américains discutaient avec les Chinois. C'est vrai qu'on a cette impression-là. L'Occident n'est pas mort, les démocraties ne sont pas mortes. On se redresse, on fait face, on a encore des capacités au moins pour faire des sanctions, avec notamment la puissance du dollar. Je crois que ça, c'est vraiment un des éléments essentiels. Mais le risque, c'est évidemment que la Chine n'ait pas du tout envie de considérer que nous avons un succès et que finalement la Russie soit d'une certaine façon la première victime, et qu'après l'Occident, finalement ayant montré les dents, ayant des capacités un peu supérieures à ce qu'il pensait, puisqu'on parle beaucoup de déclin d'Occident en Chine depuis un moment, s'en prenne à la Chine. Donc, j'allais dire entre guillemets, la résistance russe et le fait, comme l'a dit Alice tout à l'heure, d'avoir finalement non pas des alliés, mais des gens qui sont tout à fait tolérants, par exemple au Moyen-Orient, avec ce qui se passe en Russie, qui continuent des dialogues avec la Russie, voire qui ont parfois en Afrique ont besoin de la Russie, etc. C'est un moyen aussi de montrer que l'Occident a beau montrer les dents, a beau avoir des sanctions, il faut surtout pas qu'il remporte une victoire sur la Russie, parce qu'après, évidemment, il serait encore plus fier de lui. Et deuxième chose, il pourrait s'en prendre à la Chine.
Marie Mandras, un commentaire?
Oui, alors Pierre Grosser a parlé de l'Occident. Aujourd'hui, revenons à la guerre, à ce qui se passe chez nous, en Europe. Pour l'instant, c'est un défi de l'Europe et de tous les pays européens. Évidemment, l'Ukraine, qui est un pays européen, la Biélorussie, qui est un pays européen, et la Russie, qui aura probablement un jour vocation à rejoindre un grand espace européen. Donc, l'Europe, elle est bien vivante, elle fonctionne bien. Elle a décidé, comme toutes les autres démocraties, de voter des sanctions depuis le printemps 2014 et a continué à les voter tous les 6 mois. Et continue, bien sûr, avec beaucoup plus de détermination, parce que l'un des instruments que nous avons pour faire reculer l'armée russe et l'État russe, c'est vraiment l'étranglement économique. Et toute la question justement des hydrocarbures, du charbon, de l'accès ou non aux moyens de paiement, c'est absolument essentiel pour que le régime poutinien ne puisse pas continuer trop longtemps à détruire l'Ukraine. D'ailleurs, nous observons une déroute militaire qui a obligé Moscou à dire que finalement, ils allaient revenir à ce qu'aurait été leur projet originel, qui était de se concentrer sur l'occupation l'Est de l'Ukraine. Donc l'Europe, je crois, a montré qu'elle était tout à fait capable de faire face à une guerre qu'elle n'avait pas anticipée. La gestion des réfugiés, des millions de réfugiés ukrainiens, et je dirais quasiment exemplaire. Et réalisons qu'à Moscou, en Russie, où on vit dans la désinformation et dans le déni des réalités ailleurs, ils ont encore moins anticipé que nous la déroute de l'armée russe, la capacité de solidarité et d'action de tous les pays européens, le fait qu'il n'y a pas une crise à l'intérieur de l'Europe face aux migrants comme il y avait eu en 2016 au moment de la guerre en Syrie. Donc voilà, là je crois qu'il faut continuer aujourd'hui et dans les semaines qui viennent à ne pas oublier que le terrain, c'est toute l'Europe, et la grande Europe, et que pour le moment, nous nous sentons impuissants du point de vue militaire. Et donc, c'est extrêmement douloureux de ne pouvoir stopper ces massacres et ces destructions. Mais en tout cas, tout ce que nous pouvons faire pour que la guerre ne dure pas trop longtemps et pour soutenir les populations ukrainiennes, nous le faisons. Enfin, on a parlé des Chinois se présentant comme médiateurs. Moi, ce que je vois, c'est que c'est le président turc qui a proposé la médiation. Et il a déjà dit au président ukrainien Zelensky qu'il était à fond derrière lui, qu'il ne comprenait pas ses préparatifs de guerre de la Russie, qu'il le soutiendrait et qu'il se proposait, déjà début février, il se proposait en médiateur entre les deux pays qui devaient rester des pays amis, l'Ukraine et la Russie.
Alors on l'a compris, Marie Mendras, réduction des objectifs russes en Ukraine, finalement.
Enfin, s'il y avait eu l'objectif d'envahir
l'Ukraine. L'hypothèse d'une mobilisation générale évoquée, elle vous paraît plausible, peut-être une modification des objectifs, mais ce que voulait peut-être la Russie, et très sans doute c'est l'Ukraine en entier, et donc mobiliser les troupes pour réattaquer de façon plus forte. Et plus...
Mais ils ne le peuvent pas. Ils ne le peuvent pas. C'est ça aussi la grande surprise. Et je dirais même de nos militaires, nous avions surévalué les capacités des différentes armées russes, qui sont toutes évidemment occupées par la guerre, sauf les forces nucléaires. À l'intérieur de cette armée, rappelons bien qu'il y a des conscrits. Poutine continue de dire qu'il n'y en a pas. Mais il y en a, parce que quelques cercueils de zinc reviennent quand même, et les comités de mère de soldats témoignent. Et puis aussi, les militaires ukrainiens récupèrent beaucoup de corps de tués russes que leur propre armée ne vienne pas récupérer. Et il y a aussi, ils font également entrer sur le champ de bataille depuis quelque temps, des mercenaires des milices Wagner, qui sont devenus
rapatriés de Syrie et d'Afrique,
qui étaient dans un certain nombre de pays d'Afrique, notamment en Libye et puis aussi en Syrie. Ils ont fait venir des milices du tyran tchétchène Kadyrov. Ils ont fait venir aussi des combattants qui étaient en Syrie. Donc on voit qu'ils essayent par tous les moyens, mais ils n'arrivent pas à obtenir... plus, si vous voulez, ils ont des problèmes de ravitaillement, ils ont des problèmes de munitions. C'est pour ça qu'ils vont demander à d'autres pays comme l'Inde, par exemple, de l'aide de ce point de vue-là. Et enfin, c'est là qu'on en arrive à la situation en Russie même. Mais Vladimir Poutine et son clan, ils vivent en Russie de leurs mensonges sur le fait qu'il n'y a pas de guerre, qu'il n'y a pas d'exaction de l'armée russe. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que les cercueils de zinc reviennent trop nombreux. Donc, ils ne vont pas aller demander à de simples Russes de venir voir la réalité de la guerre. Donc c'est à mon avis, absolument pas envisageable de leur point de vue. Et donc, il leur reste la possibilité de continuer à détruire l'est de l'Ukraine pour rendre cette partie de l'Ukraine absolument invivable et donc ingouvernable par Kiev. Et nous devons donc nous préparer à une possible partition par la terreur militaire de ce pays. Et à ce moment-là, quelle sera la position du président Zelensky, de ses parlementaires et de son gouvernement qui continuent à travailler, et quelles seront nos positions Europe et OTAN?
Merci Marie Mendras. Je rappelle que vous êtes politologue au CNRS et au CERI, professeur à Sciences Po à l'École de Relations Internationales et membre de la revue Esprit, dont le numéro d'avril est consacré à la guerre en Ukraine sous le titre « Ukrainiens et Russes, le temps de la guerre ». Merci aussi à Lise Ekman, analyste responsable de l'Asie à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne et auteur de « Rouge vif, l'idéal communiste chinois » paru aux éditions Flammarion, et Pierre Grosser qui était avec nous depuis Saïgon, spécialiste de la géopolitique asiatique, auteur de plusieurs ouvrages, dont Pourquoi la Seconde Guerre mondiale chez Archipol. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Olivier Roux. Demain, soirée électorale sur notre antenne avec le premier tour de la présidentielle française. À samedi prochain.